الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on va essayer de retranscrire de manière la plus conforme possible paroles que le Cheikh Mohamed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, حفظه الله ورعاه, a donné en ce soir, comme il l'a énoncé au début, du samedi 14 Al-Muharram 1438, adressé suite à une rencontre avec les frères de Dar al-Hadith en France. Donc il dit à travers cette conférence, après les louanges bien sûr et les salutations, les louanges à Allah et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à travers donc cette conférence, ou plutôt cette allocution qui sera relativement concise, on va voir « Aham wasa'il ahl al-batil », c'est-à-dire les moyens déployés les plus importants ou les plus dangereux utilisés par donc les adeptes de l'égarement, les adeptes du tort et de la propagation du tort, pour engendrer le fait que les gens, de manière générale, et les jeunes de manière plus spécifique, tombent et suivent justement ces égarements et ces voies de détresse. Donc il dit, en réalité, ce sujet est un sujet d'une importance capitale. Et Allah nous a évoqué les moyens utilisés par les adeptes du tort ou les gens de l'égarement dans ce domaine. Dans le Coran, Allah a évoqué cela, le fait notamment, en premier point, il cite le fait d'habiller la vérité par le tort, à travers justement ce moyen d'utiliser les textes qui se prêtent à confusion, qui prêtent à ambiguïté, et les mélanger avec les textes qui sont clairs et qui ne prêtent pas à confusion. Et donc il a cité le verset numéro 7 dans Surat Al-Imran, la Surat numéro 3, le sens rapproché, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Ce verset, comme vous avez pu le découvrir au début, nous cite ce qui suit. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, Al-Ayat Al-Muhkamat, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Tous ces versets-là sont dans le Coran. Et c'est le moyen le plus dangereux et le plus conséquent utilisé par les gens de l'égarement pour propager leur tort. Le fait d'utiliser des versets et des hadiths donc qui prêtent à d'interprétations diverses, mutashabih, et l'istidlal bihadihi nusus, l'utilisation de ces textes-là en tant que preuve et argument pour prouver ce vers quoi ils veulent arriver. Alors que la voie de rectitude est le fait de croire effectivement à ces versets prêtant à d'interprétations diverses, mais à les ramener vers les versets qui sont clairs et qui ne prêtent pas à d'interprétations diverses, ce qu'on appelle l'ayat al-muhkamat. Donc, le Cheikh nous dit qu'ils utilisent ces versets et ces hadiths prêtant à d'interprétations diverses, wa yuridunahu mawrid ad-dalil, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent en tant que preuve et en tant qu'argument tranchant pour prouver ce qu'ils veulent prouver. Or, les gens de la masse, parmi les awam, ou parmi les musulmans de base, qui n'ont pas de connaissances profondes en islam, lorsqu'ils entendent ces textes prêtant à d'interprétations diverses, pensent ou croient fermement que c'est la pure et stricte vérité, alors que c'est tout le contraire. Et Allah, dans ce verset, nous a clarifié qu'il y a des versets, effectivement, qu'il a révélés, qui ont diverses interprétations. Et Allah a mis les gens à l'épreuve à travers cela. Il a mis les gens à l'épreuve à travers cela. Donc ceux qui croient fermement, croient aux deux catégories de versets, mais rapportent les versets prêtant diverses interprétations vers les versets qui sont clairs et qui ne prêtent pas diverses interprétations. Ceux qui ont un penchant vers l'inclination, comme c'est cité dans le verset, l'inclination vers l'égarement, ceux qui ont un penchant ou une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques. Ils ramènent les versets équivoques et ils insistent dessus pour arriver à leur fin. Le Cheikh nous dit, je vais vous illustrer cela à travers un exemple, il y en a de nombreux, mais je vais vous en citer un afin que ce soit plus clair. Et donc il a cité les versets 29 dans Sourate At-Tawbah, Sourate numéro 9. Le sens rapproché, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Donc ils vont utiliser ce verset, qui prête à diverses interprétations, je répète, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité jusqu'à la fin du verset. Ils disent, ce verset prouve de manière claire et sans relâche qu'il est obligatoire de combattre les mécréants à toute époque et dans tous les cas. À toute époque, fi kulli waqt wa fi kulli hal. Dans tous les cas, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Le cheikh nous dit, hadha al-istidlal khata. L'utilisation de ce verset pour arriver à cette finalité est une erreur. Fatal. L'obligation concernant ce verset qui prête à diverses interprétations est de le rapporter, de le ramener vers des versets qui sont clairs et muhkem. Et donc, quand on ramène cela aux différents versets ou aux différents mêmes textes, comme on va le voir après, il a cité un hadith à ce propos, on se rend compte qu'il y a déjà quatre catégories de kuffars, de mécréants, qu'il n'est pas permis de combattre. Il y a ce qu'on appelle al-mu'ahad, celui avec qui on a un pacte ou un engagement. Il y a également al-musta'min. Ça vient de aman, c'est-à-dire qu'il est rentré avec une autorisation et on lui accorde refuge ou sécurité. Il y a al-dhimmi. Al-dhimmi, celui qui vit dans les pays, ceux qui vivent dans les pays musulmans parmi les mécréants, certaines catégories de mécréants, et qui verse une capitation, comme vous voyez dans ce verset à la fin, et qu'il verse jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Ces gens-là également, parmi les kuffars, parmi les mécréants, on n'a pas le droit de transgresser sur leur sang et leur bien. Même man kunna ma'ahu fi sulh, celui avec qui on a un pacte ou une trêve ou un arrangement qui a été fait d'une part et d'autre, ce qu'on appelle al-mithaq. Toutes ces quatre catégories, par exemple, on n'a pas le droit de transgresser à leurs propos. Et ils sont exceptés de ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit « Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah ». C'est-à-dire que celui qui tue une personne avec qui justement on a un pacte, mu'ahad, ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur, on peut la sentir d'une distance de 40 jours. Donc ceux qui utilisent ces versets, ou ce verset plutôt, pour dire que l'on doit... On se doit de tuer donc les mécréants sans relâche et de manière totalement absolue, n'ont pas accepté ces quatre catégories, mais sont restés sur la généralité ou le caractère absolu du verset en disant qu'on doit les tuer dans toute époque et quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors qu'en ramenant juste ce hadith-là, ou en ramenant les différents textes qui sont rapportés à ce propos, on acceptera déjà ces quatre catégories parmi les mécréants, car toutes ces catégories, le mu'ahad, le musta'min, le dhimmi, et celui avec qui on a un sulh, ce sont des gens qui font partie des kuffars, certes. Le cheikh rajoute également ashab al-murasala, bayna al-muluk wa al-dawl, sifarat al-qunsuliyat, c'est-à-dire ceux qui servent de tremplin ou d'intermédiaire entre les rois, les dirigeants, entre les différentes nations, les ambassades, les consulats qui représentent donc leur pays et à travers lesquels les messages des différents dirigeants sont transmis également, sont acceptés de cette catégorie. La preuve à ce sujet est que le fait que Moussaïlama, une personne qui prétendait la prophétie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé de sa part à lui un messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appelant à croire à la prophétie de Moussaïlama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laoula anna rusul al-muluk la tuqtel la qateltuk ». C'est-à-dire que si ce n'était le fait que les envoyés ou les messagers des rois ou des gens qui ont une certaine autorité ou qui représentent une certaine révérence ne doivent être exécutés, je t'aurais exécuté. Si ce n'était cela, je t'aurais exécuté. Donc, Rusul al-Muluk, les messagers ou ceux qui viennent transmettre des messages de la part de rois ou de dirigeants, il n'est pas permis également de les exécuter. On rajoute cela donc aux quatre catégories qui sortent de manière intégrale du verset qu'on a vu dans Sourate At-Tawbah, dans la Sourate numéro 9, le verset numéro 29. Donc ça, c'est un exemple pour illustrer cette utilisation des textes émanant du Coran, mais qui prête à diverses interprétations, et le fait de rester figé dessus en disant c'est un verset du Coran, donc on ne peut pas le rejeter, donc on se doit de l'appliquer à la lettre. Alors que la voie de rectitude est de dire que ce verset-là, on doit le ramener vers les textes muhkam, al-ihkam, antaqul. Donc tu cites le verset, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَةِ. Et on accepte donc ces différentes catégories qui ont été citées également de textes religieux. Ces différentes catégories que l'on va accepter, on ne va pas les sortir de nos têtes, mais on va les accepter de ce qui est rapporté donc dans les textes religieux comme on a pu le voir. Et les autres catégories, ceux-là, ils ne sont pas acceptés. Les autres catégories, hors celles que l'on a citées, les quatre, et celles qu'on a pu rajouter par la suite, ne sont pas donc acceptées. Et le cheikh nous dit à la fin de cette illustration que c'est le moyen le plus dangereux et le plus performant qu'ils ont trouvé et qu'ils utilisent pour induire les gens en erreur. Le fait d'utiliser des versets du Coran prétend à diverses interprétations. Il y a également, en deuxième point, at-talbis bil umur al-mujmala, c'est-à-dire le fait d'induire les gens en erreur ou de les séduire à travers des choses qui sont relativement générales ou confuse. Et à travers ces points qui sont généraux ou confus, on va engendrer différentes conclusions, différentes déductions pour pouvoir se rapprocher ou pour pouvoir établir le tort que l'on veut faire croire aux gens et que l'on veut propager et répandre. Exemple, le fait de dire à tout le monde innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Et ces délimitations et ces frontières qu'il y a entre les différents pays coupent ces liens de fraternité et rompent la fraternité qu'il y a entre les croyants et les musulmans. Et ceci est issu de l'istimar. Ceci est issu de l'istimar, c'est-à-dire les différents pays qui ont été colonisés. À la suite de cela, il y a eu donc ces frontières qui ont été établies et ceci coupe la fraternité véritable qu'il y a donc entre les croyants, et donc à travers cela, ils veulent en arriver à quelle déduction ou à quelle conclusion qu'il ne faut pas obéir aux dirigeants dans ces choses-là. Le cheikh, encore une fois, nous dit que ceci est complètement faux, cette conclusion est complètement fausse, et la réplique à cela est de dire que effectivement les croyants sont des frères, c'est un verset, on ne peut pas le renier, « Innam al-mu'minuna ikhwa » effectivement, mais ceci n'empêche pas qu'il peut y avoir des frontières et des délimitations des différents pays et que chacun se doit d'obéir et de prêter allégeance aux dirigeants musulmans de son pays, de lui obéir et de l'écouter et de lui obéir et de respecter les règles qui ont été établies pour le bien-être de tout le monde. Tout comme chacun, il a sa demeure, il a sa maison, il a son appartement, il vit dans un endroit et il profite de certaines choses qui sont bien spécifiques à lui, et qu'il ne me partage pas avec les autres. C'est ainsi pour les délimitations qu'il y a à travers les frontières et les pays. Et toute cette utilisation revient donc à ce deuxième point qui est l'utilisation de textes, l'utilisation de textes ou de règles qui sont relativement confuses, relativement concises, et en arriver à travers cela à faire des déductions. Or, les savants de la sunna sont unanimes que s'il y a un dirigeant dans une région, dans une contrée, dans une communauté bien précise, on se doit de lui prêter allégeance, de lui obéir selon les règles de l'islam. Et ceci existe depuis des siècles antiques, comme il y a eu Ad-Dawla al-Umawiyya en Andalousie. Et il y a eu également en même temps Ad-Dawla al-Abbasiyya dans les pays de l'Orient, comme il y a eu d'autres douals à d'autres endroits, et ceci n'a pas empêché que chacun a son dirigeant, chacun prête allégeance à son dirigeant, il écoute et lui obéit dans l'obéissance d'Allah, sans que ceci ne contredise en quoi que ce soit le fait que les croyants sont des frères les uns envers les autres. Chaque pays a ses délimitations, a ses frontières, a ses règles de vie. Et les savants n'ont jamais réprouvé ou blâmé cela. Le but de ce type de généralité ou de ce type de déduction est d'engendrer que les gens ne prêtent plus allégeance à leurs dirigeants ou alors se rebellent contre leurs dirigeants et coupent la relation qu'il y a avec leurs dirigeants. Et donc, la finalité de cette voie et de ce qui aura été entrepris sera l'enfer, puisque mufaraqat al-jama'a, le fait de quitter la masse des musulmans, la suite qu'il y a à cela, c'est l'accès à l'enfer, comme ceci est rapporté dans le hadith de Hudayfa, le long hadith rapporté par Muslim. Hudayfa radiyallahu anhu dit que je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, nous étions dans al-jahiliya, dans l'époque anti-islamique et dans un mal récurrent. Est-ce qu'il y a après ce mal un bien? Il lui a dit oui. Et il lui a dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Il lui a dit, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il lui a dit oui. Wa fihi dakhan. Fihi dakhan, c'est-à-dire que ce sera confus, ce ne sera pas totalement filtré ou pur. Il lui a dit, c'est quoi dakhan, yani, c'est quoi justement cette confusion, ce problème? Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont apparaître des gens ou des dirigeants qui suivent autre que ma voie et qui ne se conforment pas à ma sunna. Et il lui a dit, est-ce que après cela, il y aura, après ce bien qui est donc partiel et qui n'est pas intégral, il y aura un mal? Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, des prêcheurs aux portes de l'enfer, celui qui répond à leur appel ou à leur prêche, ils le pousseront dedans, il y en a dans l'enfer. Et le Hudayfa radiyallahu anhu a dit, sifhum lana, c'est-à-dire caractérise-les nous, ô messager d'Allah. Il a dit, ce sont des gens, imbani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont de notre origine, ce sont des êtres humains, ce n'est pas une autre catégorie de créatures, et ils parlent notre langue. Et donc il a demandé une recommandation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que faire pour repousser donc ce mal et cette calamité? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum, tu restes à proximité et en concordance avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants. Donc la fonction de l'utilisation de ce type de texte est toujours, ou de manière récurrente la même, le fait de faire sortir les gens, de les empêcher de prêter allégeance, de se conformer aux ordres de leurs dirigeants. Car dans ce hadith-là, à la fin, Hudayfa demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam une recommandation. Et la recommandation va être en concordance avec le problème ou le fléau qui aura été évoqué auparavant. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise de rester avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants montre que ces gens-là veulent justement qu'ils ne restent pas avec le groupe des musulmans et qu'ils ne restent pas sous l'autorité et l'égir du diligent. Et comme le cheikh a dit, l'ilaj bihasabidda, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dicter un remède en concordance avec la maladie ou le fléau qui aura été donc détecté. Ce qui prouve que ces gens-là ont ce but bien précis. Ensuite, il a cité le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les chrétiens se sont divisés en 71 fractions. Est-ce que le cheikh a inversé les chrétiens ou les juifs ou est-ce que c'est une autre version? Allahu alam. En tout cas, il a cité que les chrétiens se sont divisés en 71 fractions, toutes en enfer sauf une. Les juifs 72, toutes en enfer sauf une. Et ma nation va se diviser en 73, toutes en enfer sauf une. Qui sont-ils au messager d'Allah? Il a dit, al-jama'a, le groupe. Et dans une autre version, ma ana alihi wa ashabi, ceux qui se conforment à ma voix et ainsi que celle de mes compagnons. Donc, tous ceux qui contredisent ce sur quoi est, où était le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont concernés et visés par cette menace émanant du messager. Et ce hadith, le cheikh a dit, khatirun jiddan, est un hadith très dangereux, c'est-à-dire que ce qu'il contient, l'essence qu'il contient et la lourde menace qui pèse, est à prendre véritablement en considération. Et il est en totale concordance avec le verset 115 qu'il y a dans Surat An-Nisa. Le sens rapproché, quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qui s'est collé, et le brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et il dit donc que ce verset concorde totalement avec ce hadith, et il dit que Sabil al-Mu'minin, le chemin des croyants, c'est Jama'at al-Muslimin, le groupe, la fraction des musulmans, et les premiers qui sont concernés par cela, ce sont le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc c'est celle-ci, la voie ou le chemin à entreprendre. Sabil al-Mu'minin, as-Sabil al-Tariq, c'est celui-ci emprunté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ensuite, il a cité le hadith. Hadith d'Abi Najih, l'Irbad ibn Sariya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce compagnon relate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un serment, tel que nos cœurs en frémirent et nos yeux en versèrent des larmes. Nous lui demandâmes alors, ô messager d'Allah, serait-ce un serment d'adieu? Fais-nous donc quelques recommandations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, je vous recommande, dit-il, la crainte d'Allah, qu'il soit exalté et magnifié, et une totale obéissance, même si un esclave devient votre chef, car celui auquel sera prêté une longue vie verra de nombreux différents. Aussi tenez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes, bien guidés après moi. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des choses forgées, car toute chose forgée est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement conduit au feu. Donc le cheikh nous dit, ta'ammal, c'est-à-dire médite sur ce hadith, et tu vois qu'il a dit, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ أَوْ فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Quiconque parmi vous vivra, verra de nombreuses divergences, de nombreuses altercations. Encore une fois, quel est le remède? Le fait de suivre ou de se cramponner, de se conformer à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna des califes, bien guidé, et de rester avec la masse des musulmans, en écoutant et en obéissant aux dirigeants, car ces gens-là, une fois de plus, veulent écarter les gens de l'écoute et l'obéissance aux dirigeants des musulmans. Ensuite, le cheikh a fait une invocation pour qu'il nous accorde la réussite dans la conformité avec la voie du messager, car celui qui ne se conforme pas à la voie du messager, il n'y a pas une autre solution que le fait de suivre des gens qui appellent justement aux portes de l'enfer, comme c'est venu dans ce hadith-là. Et on a également le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a illustré cela dans un hadith clair, dans lequel il a tracé un long trait au sol, puis il a tracé à droite et à gauche de ce long trait des petits traits. Et il a montré avec son doigt en disant « Hada sabil »« Hadihi subul » plutôt. Il a dit ceci, ce sont des voies qui mènent vers l'enfer. Et ensuite il a montré le long chemin dans lequel il a cité que ceci, ou ce chemin-là, ou cette voie, est la voie de la rectitude et la voie du sauvetage. Donc celui qui veut être sauvé, qu'il suive ce chemin, qu'il suive cette voie. Et Allah nous a enseigné dans le Coran à chaque raka'a l'énonciation des versets. Donc, « Ihdina s-salat al-mustaqim »« Guide-nous vers le droit ou sur le droit chemin »« Salat al-ladina an'amta alayhim »« Ghayri al-maghdoubi alayhim wa al-dallin » Donc les versets à la fin de surat Al-Fatiha, qui nous épargne des chemins de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Ceux qui ont encouru sa colère, il illustre cela en disant que ce sont les juifs et ceux qui ont reconnu la vérité et qui se sont éloignés en suivant les passions, en suivant leurs désirs, alors qu'ils connaissaient la vérité à ce propos. Et Ad-Dallin, les égarés ou les perdus, ce sont les chrétiens, ainsi que ceux qui sont les adeptes de l'ignorance, des ignorants qui ne suivent pas le messager, qui met en pratique des innovations et des choses qui sont forgées dans la religion. Le musulman a besoin de renouveler son intention, de renouveler sa sincérité dans sa pratique et qu'il évoque et se rappelle à chaque instant ou de manière fréquente la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui met en pratique un acte qui n'est pas conforme à notre religion ou à nos enseignements, ce sera rejeté. Voilà donc ce que je voulais énoncer de manière concise à travers cette intervention, demandant à Allah la réussite et la voie de droiture. Maintenant, on va essayer de voir donc les questions et les réponses que le cheikh a données. La première question, le questionneur demande, en disant ce qu'il m'est possible ou ce qu'il est permis d'avoir de l'alliance envers les différentes fractions qu'il y a au niveau du peuple syrien, tels que Jaysh al-Islam, ou bien Ahrar al-Sham, ou d'autres groupes qui sont actifs en Syrie. Alors qu'ils combattent, donc ils combattent là-bas les chiites ainsi que les soldats syriens, donc les soldats de Bachar al-Assad, ainsi que les Khawarij et Dawa'ish. Dawa'ish, donc c'est le pluriel de Da'ish, c'est les partisans de ce groupe, afin que la parole d'Allah soit la plus haute pour préserver l'honneur des gens de la Sunna. Donc dans ce pays, afin que l'État ou afin que le peuple ou la terre du Cham, de Syrie et autres, qui est béni, ne se retrouve pas dans les mains des ennemis de l'islam. Sachant que, pertinemment, que ces différents groupes ou ces différentes factions ont des fautes et il y a des observations sur elles, mais qui ne méritent pas un désaveu complet, intégral et total à leur propos. Donc, quel est le conseil que vous pouvez donner ou plutôt, il est connu, le mal de leur ennemi est connu, le fait qu'ils veulent mettre fin donc à l'islam, etc. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce propos? Le cheikh répond en disant, je dis, Allah a mis à l'épreuve, Allah nous a mis à l'épreuve à travers différents ennemis qui se ruent à notre époque contemporaine sur l'islam et qui sont des ennemis déclarés des musulmans. Ils propagent des problèmes avec de nombreux buts qu'ils souhaitent atteindre. Ils veulent combattre l'islam, les musulmans et l'islam et mettre fin à leur existence. Il y a 5 ans ou plus, pour ceux qui ont suivi les événements, les médias avaient évoqué qu'ils voulaient provoquer fawda, c'est-à-dire il voulait provoquer un désordre total dans les pays du Moyen-Orient. À l'époque de George Bush Jr., donc le fils, il y a environ 5 ou 6 ans, ils ont parlé de Ush Zanabir, c'est-à-dire de provoquer ou de construire ou d'édifier un nid de bourdon. C'est l'expression que le cheikh a utilisée, un nid de bourdon dans ces pays-là et d'attirer les jeunes vers ces régions. Et les renseignements généraux, les agents secrets de différents pays tels que l'Amérique, les États-Unis, la Russie, l'Iran, les Juifs, il y en a nommé Israël, l'Angleterre, la France et autres, ont participé donc à cela et évoqué cela. Ils combattent pour des visions qui sont ambiguës et l'apparent ne reflète pas le caché. Et vous avez sans doute entendu les savants parler sur ce point-là. Ceux qui sont mis à l'épreuve dans ces endroits, qui vivent dans ces endroits et qui font face donc à ces harcèlements et ce qui se passe dans ces endroits-là, doivent faire face pour se protéger et se défendre. Quant aux autres, il ne leur a pas souhaité ni demandé d'agir ou de se déplacer de manière corporelle. Mais il est louable à leur propos de les aider à travers le mal, donc à travers l'argent, leur faire parvenir de l'argent, ainsi que des invocations en utilisant des moyens qui sont sûrs pour pouvoir les faire parvenir à des gens qui sont nécessiteux, qui sont dans le besoin, qui vont tirer profit de cela. Mon frère le questionneur, je ne te conseille pas d'aller combattre dans ces endroits-là, mais plutôt d'invoquer et d'aider tes frères par des voies qui sont légitimes et de faire parvenir aux gens qui sont besogneux et qui ont besoin de ces aides-là. Et sache également que parmi les conditions pour combattre, il y a wudhuh ar-raya, c'est-à-dire qu'il y a un étendard qui est clair et net et qui ne prête pas à différentes interprétations. Et il est rapporté dans le recueil de l'imam Muslim que celui qui combat sous un étendard, tahta raya, je ne sais pas ce que le cheikh il a dit, et qui meurt dans cet état-là, celui qui combat sous un étendard qui est, on va dire, à l'aveuglette, qui n'est pas clair, comme le cheikh avant il a parlé d'un étendard qui est clair, un étendard, c'est-à-dire un drapeau, un étendard qui est dirigé par une personne, un dirigeant, et qui a un but donc bien précis, le fait que la parole d'Allah soit la plus haute, celui qui ne combat pas sous ce type d'étendard, mat et qui meurt dans cet état-là ou dans un combat pareil, mat amitatan jahiliya, il mourra d'une mort conforme à l'état avant l'islam. Conforme à l'état avant l'islam. Donc ici, il n'y a pas de raya, il n'y a pas d'étendard dans ce sens-là, mais il y a plutôt plusieurs étendards qui sont levés sous plusieurs personnes avec des buts qui sont parfois différents. Autre chose, il faut savoir que le djihad en islam est basé sur la capacité de faire l'affront. Et ça, c'est une règle religieuse, légitime et qui est générale dans tous les domaines. Le qudra manat at-taklif, c'est-à-dire que la capacité d'agir dans ce domaine-là du djihad, ou la capacité de manière générale, est manat at-taklif, c'est à ça que va être rattaché le fait que la personne sera responsable de ses actes ou irresponsable de ses actes, sera jugée pour ce qu'elle a fait ou pas jugée pour ce qu'elle a délaissé. Et ils ne peuvent faire face à notre époque, ou dans cette situation bien précise, ils ne peuvent faire face, et ceci est également dangereux. Donc que le diable ne t'intuisse pas en erreur en te disant il faut secourir les musulmans, Nusrat al-Muslimin, ou bien dans le fait de revenir à ce qu'on a cité dans l'intervention, Bab al-Ijmal, c'est-à-dire le fait d'utiliser des propos qui sont relativement concis pour arriver à des conclusions qui en sont très graves et très conséquentes. La deuxième question qui a été posée, donc, au Cheikh, c'est la deuxième, celle-là ? Les habitants de Alep, hein ? La question, les habitants de Alep, Halab en arabe, et ailleurs se font bombarder injustement au quotidien par milliers de morts. Nous, musulmans de France et d'ailleurs, ne sommes-nous pas concernés par la parole d'Allah, le sens rapproché ? Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Et avez-vous une réponse à nous conseiller le jour où Allah nous demandera des comptes à ce sujet ? Et les savants qui nous conseillent de ne pas aider nos frères de ne rien faire et de patienter, se porte-t-il garant devant Allah des conséquences à ce propos ? La question, la réponse, le Cheikh dit cette question ressemble beaucoup à la précédente. Et donc la première réponse revient également pour cette question. Ce qui se passe à Halab, et nous demandons à Allah, donc Alep en français, Halab en arabe, nous demandons à Allah de leur accorder aide, secours, de protéger l'islam et des musulmans et de nous montrer sur leurs ennemis sa puissance inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Ce qui se passe est muhzin et mubki, c'est-à-dire que ça rend le musulman triste et ça engendre chez lui des larmes qu'il ne peut contenir. Mais nous ne pouvons faire face à travers la révolte ou à travers la force car nous sommes dans une impasse et dans une incapacité. Le djihad, comme nous avons cité auparavant, parmi ces conditions, il y a al-qudra, la capacité d'agir. Et il y a un plan qui a été établi contre donc l'islam et les musulmans. Et le fait de décréter à quelqu'un de partir là-bas, c'est le fait de lui décréter d'ajouter tuerie sur tuerie, problème sur problème, effusion de sang sur effusion de sang. Pareil pour les gens de Mosul qui sont en Irak, dans leur la majeure population qu'il y a là-bas, ce sont des gens de la Sunna, ce ne sont pas des chiites. Et les moyens de communication ont été coupés avec cet endroit-là. Et nous demandons à Allah également de les secourir. Et il faut également les secourir à travers les invocations, à travers le soutien, à travers les invocations, à travers les aides financières que l'on peut leur faire parvenir. Quant au fait de dire « je vais aller là-bas » et je vais combattre, c'est comme si tu ajoutais mort de musulmans sur la mort de musulmans, car nous sommes dans un cap d'incapacité. Et ceci, ce sont des planifications, des stratagèmes qui ont été établis de manière internationale pour frapper l'islam et frapper les musulmans. Donc il faut prendre garde, et le musulman se doit d'être attentif et de ne pas être instinctif et émotif. Ils l'ont dit eux-mêmes que c'était une volonté de mettre fin à la religion de l'islam, de mettre fin à l'existence des musulmans. Donc comment peux-tu dire, je vais aller là-bas, je vais combattre à côté de ces personnes car ils sont en détresse. Et si quelqu'un nous dit, votre décret est bien, mais ce que vous êtes en train de nous dire, vous le tirez d'où? Le fait de patienter et d'attendre alors que nos frères se font tuer et exécuter. Quelle est votre preuve à ce propos? Et le cheikh donc dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté la Mecque, Quraysh, le peuple de Quraysh à la Mecque, faisait vivre des instants difficiles aux mustadafin, aux gens qui étaient faibles parmi les musulmans qui vivaient à la Mecque. Et lors du pacte de l'Hudaybiyah, un des compagnons qui s'appelle Abu Jandal est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, je suis musulman, prenez-moi avec vous, emmenez-moi avec vous, ne me laissez pas ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas pris car il n'y a pas de capacité à faire l'affront. Et avant cela, Omar radiallahu anhu s'est étonné de l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ne sommes-nous pas sur la vérité alors qu'ils sont sur le tort? Pourquoi nous sommes aussi c'est-à-dire pourquoi nous agissons avec une telle bassesse dans notre religion? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, est-ce que tu as un doute à ce propos, Yabn al-Khattab? Allah m'a ordonné d'agir de la sorte. Donc on se doit de patienter en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu les mêmes présages. Et ils ont, avant la hijra, lors de l'époque mécoise, ils ont poignardé Soumaya, la mère de Ammar ibn Yasir. Ils l'ont assassiné. Donc le récit que vous venez d'entendre avec Abu Jandal, qui était à la Mecque, la torture qu'il y avait sur Bilal ibn Rabah, également, avant, lors de la période mécoise. Il a fallu attendre le sulh, donc ce fameux pacte qui a eu lieu à l'Hudaybiyah, et la patience réitérée à ce propos, jusqu'à ce qu'Allah a autorisé al-qital, donc le fait de combattre et de chercher à reconquérir la Mecque, ce qu'on appelle Fath Mecca. Donc c'est ainsi que nous devons agir et patienter concernant les gens, les frères, les musulmans qui sont à Halab, qui en Syrie, ou qui sont à Mosul en Irak, jusqu'à ce qu'Allah accorde son secours, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne change pas son propre état et sa propre situation. Donc nous devons établir l'islam sur nos propres personnes et le pratiquer comme il se doit. Comme nous devons établir et pratiquer l'islam, faire pratiquer l'islam par nos familles et nos proches. Et Allah a établi une promesse dans le sens rapproché. Si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Sourate 47, Mohammed, verset numéro 7. Et il dit également dans la sourate 24, Nour, la lumière, verset numéro 55. Le sens rapproché, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Donc le fait d'établir la religion d'Allah dans nos cœurs, dans nos pratiques, et elle va s'établir sur nos terres et nos contrées. Et les ennemis, parmi les koufards, les mécréants, savent de manière pertinente que le véritable ennemi, ce sont les gens de la sunna qui établissent la religion de vérité et la religion de droiture. Troisième et dernière question qui a été posée au cheikh. Et la suivante. J'ai lu votre article concernant les théories du complot et je vous remercie pour cette excellente analyse. Ma question est celle-ci, peut-on nier que ces organisations secrètes, Illuminati, c'est ça? Non. Franc-maçonnerie ont un lien direct ou indirect avec les groupes terroristes qui s'affilient à l'islam? Et est-il judicieux d'avertir les gens contre eux-mêmes au même titre que les avertir contre Daesh? Le cheikh dit également... Encore une fois, la première réponse que j'ai donnée à la première question est également effective pour cette troisième question. Plusieurs indices qui montrent que ces groupes, que ce soit Daesh, Al-Qaïda et les autres parmi les groupes terroristes sont un complot, sont issus d'un complot ou alors d'une création pure et nette de la part de ce type de groupe-là ou d'agents secrets ou autres pour préserver les intérêts de différents pays. Et l'évolution des choses ne fait que conforter cette idéologie. Car les actes de Daesh, etc., qui tuent l'islam, qui cherchent à mettre fin à l'islam et tuer les musulmans, a donné une image très noire et très renfermée, très violente de l'islam, afin que ce soit une bouchée qui va être avalée en une seule fois par les ennemis de l'islam. Donc ça montre que ces voix, ces fractions, ces groupes sont inventés de toutes pièces et le but suprême à ce propos, c'est le fait de mettre fin à l'islam. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article d'un gradé juif dans l'armée américaine qui a dit que celui qui pense que nous combattons l'Irak, Afghanistan, il a cité deux pays, j'en ai noté un. Celui qui pense que nous combattons, que nous avons établi une guerre en Irak, et un deuxième pays, je crois que c'est l'Afghanistan, mais je suis pas sûr, pour, à cause des événements qu'il y a eu le 11 septembre 2001, fait complètement fausse route. Notre but est de mettre fin à l'islam de manière définitive. Nous voulons que les gens pratiquent un islam selon nos volontés. Un islam comme nous voulons qu'ils le pratiquent et non pas comme ils veulent le pratiquer. Ce sont des déclarations émanant d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'on pourrait croire au contraire? Et on remarque également que l'Iran, par exemple, l'Iran issu de Al-Khomeini, a un rôle. Beaucoup d'indices montrent que l'Iran a un rôle conséquent avec la fraction donc de Daesh. Le premier élément qui montre cela, c'est qu'il n'y a pas de Daesh chez eux. Il n'y a pas d'agent de Daesh ou d'agissant au nom de Daesh chez eux, ce qui est très étonnant. Et apparemment, et ils apparaissent, ces gens-là de Daesh apparaissent là où il y a des gens de la Sunna pour y mettre fin. Également, les francs-maçons, il y a de nombreuses études qui ont été établies à leur propos et qu'il y a des groupes actifs qui agissent et qui ont un rôle sur la politique mondiale. Donc, toutes ces fractions, toutes ces voix, toutes ces représentations, toutes ces fondations méritent la même fin qui est la mise en garde intégrale sur leurs agissements. Et donc, le cheikh a terminé par une invocation en disant que je mets fin à Annie parce qu'on a dépassé de environ 5 minutes le temps qui était approprié et je ressens une légère fatigue, donc je vous demande de m'excuser et de mettre fin donc à cette intervention. Voilà, Annie, de manière résumée, ce que le cheikh a pu dire concernant donc cette intervention profitable. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.